Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh. Yidelech prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et merci de nous retrouver de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles à ce rendez-vous du commentaire de la Paracha par Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, voilà, ça va, on est un peu perturbé par l'actualité.
On va en revenir dans un instant. Cependant, nous lirons cette semaine deux Sidrot, Béar et Bechukotai, l'allumage des bougies de ce Shabbat à 20h38 selon le calendrier. Et demain, la fin du Shabbat à 21h57. Ces horaires sont évidemment valables pour Strasbourg et ses environs. On souhaite, comme chaque fois, une refoua shlema à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Enfin, je voudrais dédier cette émission à l'élévation de l'âme de M. Albert Dadoun, qui est parti la semaine dernière, c'était dimanche dernier pour l'enterrement. Et évidemment, on pense à sa famille, à sa femme et à ses enfants pour ce décès qui nous touche. Avant de parler de la paracha, M. le grand rabbin, on va évidemment revenir sur l'horrible attentat qui s'est déroulé à la Griba, en Tunisie, pour ce fameux pèlerinage. Bilan, deux policiers ont été tués, ainsi que Aviel et Ben Haddad, deux cousins qui étaient là-bas. Nous avons évidemment une pensée pour leur famille. Quelle réaction vous avez eue après l'annonce de cet attentat qui a eu lieu à la suite de la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai?
L'effroi, je pense, l'effroi comme tout le monde. On parle ici de deux cousins qui s'étaient rendus dans cette synagogue pour un moment de joie, pour un moment de simcha. Une vidéo qui a circulé d'ailleurs nous permet d'apercevoir encore une des deux victimes qui se laisse porter par l'ambiance tout à fait extraordinaire, chaleureuse qui se dégageait de ce pèlerinage, qui est un moment de solidarité, qui est un moment de retrouvailles, qui est un moment de joie. Les personnes qui s'y rendent, elles s'y rendent justement pour mettre un terme à cette période du Homer, qui est une période pesante, qui est une période lourde, qui est une période de deuil, et justement pouvoir, au travers de ce pèlerinage, et notamment au travers de la journée de l'Akba Omer, eh bien, manifester un petit peu toute cette simcha. Et de voir que c'est dans un moment de simcha qu'on les a attaqués, qu'on les a fauchés, voilà, cela donne une dimension, on va dire, encore plus effroyable à cet attentat. Pour moi, à titre personnel, bien sûr, ça rappelle des souvenirs très très douloureux à Toulouse. En tout cas, je voudrais vraiment à la fois saluer bien sûr le courage et l'abnégation des policiers, et notamment des deux policiers, deux victimes, hein, qui ont vraiment donné de leur vie pour protéger le reste des pèlerins. On imagine quel massacre on aurait pu assister si jamais le terroriste n'avait pas été abattu rapidement. Et aussi souligner le travail exceptionnel qui a été fait notamment par les responsables de la communauté de Marseille, afin que le corps notamment de Ben puisse être rapatrié rapidement et qu'il puisse être enterré vraiment dans de bonnes conditions. Bien sûr, on a des pensées très très émues pour les familles de toutes les victimes, et on pense notamment donc de tout cœur à la communauté de Marseille, puisque Ben Haddad était quelqu'un de très connu, de très apprécié. Et voilà, je me suis entretenu par message hier soir avec Tzvi Amar, président du consistoire, qui était très touché par tous les messages de soutien, et voilà, qui m'a vraiment dit à quel point la communauté avait besoin, la communauté de Marseille avait besoin de ces messages pour essayer de relever la tête.
On n'oublie pas la victime en Israël qui a été touchée hier.
On n'oublie absolument pas la victime touchée en Israël. J'allais d'ailleurs évoquer aussi la situation épouvantable. J'ai passé 48 heures en Israël cette semaine, juste avant que les hostilités ne commencent. Et bien sûr, on a une pensée très émue pour cette victime touchée à Rehovot, et pour l'ensemble de nos frères et sœurs en Israël qui se retrouvent à nouveau sous une pluie de missiles, avec la peur au ventre, à devoir, en l'espace de quelques secondes, aller s'abriter, donc le plus rapidement possible, afin de sauver leur vie. Et là aussi, bien sûr, toutes nos tefilotes vont vers Akadosh Baruch Hu pour que Israël puisse retrouver un petit peu de calme et de sérénité et que les terroristes puissent cesser de s'attaquer à Israël.
On va revenir juste un moment pour vous dire, c'est vraiment du coq à l'âne, que demain vous serez amené à intervenir pendant le Kiddush Hassi du consistoire. Donc on vous retrouvera demain à la fin des offices pour le Kiddush. On va passer au Sidrot de la semaine, Behar Berukotai, là aussi, un Shabbat Merubarim.
Voilà, tout à fait. On a eu l'habitude dans ce Sefer Vayikra de lier la lecture de certaines parachiotes. Ce sera le cas une fois de plus cette semaine avec les deux dernières Sidrot. Donc c'est un Shabbat, effectivement, avec des parachiotes Merubarot, mais également ce qu'on appelle un Shabbat Chazak, puisqu'on conclura la lecture du livre de Vayikra, du Lévitique, troisième livre de la Torah, par la lecture donc des Sidrot de Béar et Bechukotai. Notre première paracha, Béar, est exclusivement consacrée aux lois de la Jachère, de la Shemitah. Donc c'est un sujet d'actualité, puisque l'année dernière était une année de Shemitah en Eretz Israël, et une plus grande partie encore de cette sidra sera consacrée aux lois du Yovel, du Jubilé. Il y a même un déséquilibre un petit peu entre la place qui est consacrée à la Shemitah et celle qui est consacrée au Yovel, mais on est, bien sûr, quoi qu'il en soit, autour du même sujet, hein, puisque la Shemitah et le Yovel ne constituent qu'un grand sujet par rapport au repos de la terre, par rapport à la notion de propriété, voilà, qu'on évoquera un petit peu plus largement. Sidra, c'est court, hein, donc la sidra de Béar, et puis on enchaîne sur la sidra de Bechukotai, qui a priori n'a pas de lien direct avec la sidra de Béar, ce qu'il faudrait d'ailleurs expliquer. Il y a forcément un lien, la liaison des sidrotes n'est jamais fortuite. Et la paracha de Bechukotai, qui elle est essentiellement consacrée aux bénédictions promises au peuple d'Israël s'il respecte les lois divines, et à l'inverse, ce à quoi il s'expose si jamais il ne respecte pas ces lois. Donc on va avoir une longue série de ce que l'on appelle communément les malédictions, même si c'est un terme que je n'affectionne pas particulièrement. Et la fin de la paracha de Bechukotai passera rapidement, enfin en lumière, certaines lois, dont notamment les dons au temple. Mais j'ai voulu résumer véritablement en parlant des principaux sujets qui sont abordés donc dans ces deux sidrot.
Alors, vous l'avez évoqué dans votre petit Edvar Torah que les gens reçoivent sur WhatsApp, c'est effectivement dans le premier verset de Béa, on mentionne que Dieu a parlé à Moïse sur le mont Sinaï. Alors, la question qu'on se pose, d'habitude, on ne dit pas à quel endroit Dieu a parlé. Là, on mentionne le mont Sinaï. Est-ce que l'explication qu'on doit donner, c'est laquelle?
Voilà, alors ça n'a pas échappé à Rashi, bien évidemment. Et Rashi va nous dire, je disais dans ce petit message de WhatsApp dont vous parliez, qu'il s'agit sans doute d'un Rashi les plus célèbres. Parce que Rashi nous dit « Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï », quel rapport entre la Shemitah et le mont Sinaï? C'est une expression d'ailleurs qui est devenue une expression très populaire, puisque lorsqu'on veut exprimer le fait que deux sujets n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein, d'une manière générale, on a l'habitude de reprendre cette expression « Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï ». De quoi tu parles? Quel rapport finalement entre les deux choses? Et Rashi nous dit effectivement Kol haMitzvot Nemru beSinaï. Quel est l'enseignement particulier qui se dégage de ce verset? Nous savons que la totalité des commandements ont été donnés depuis le Har Sinaï. Donc pourquoi le préciser concernant la Shemitah? Et Rashi nous dit c'est tout simplement pour te dire que ce ne sont pas simplement les enseignements généraux qui ont été donnés sur le Har Sinaï, mais même leurs détails, les détails de leur application, ils ont également été transmis et enseignés sur le mont Sinaï. Et donc de là se pose la question, mais pourquoi est-ce si important, à la fois que les choses se déroulent de cette manière? Dieu aurait très bien pu envisager de donner les grandes lignes de ses commandements sur le Har Sinaï, et puis de décider par la suite, au fur et à mesure de l'histoire et de la rencontre entre le clan Israël et ses différents commandements. Parce que Jean, je rappelle que pour toute une partie de ces commandements qui ont été édictés sur le Har Sinaï, les Bnei Israël n'étaient pas encore en mesure de les accomplir, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas encore sur la terre d'Israël pour une partie d'entre eux, ou parce que certaines situations ne s'étaient pas encore présentées à eux. Donc on aurait pu imaginer que les grandes lignes soient données sur le Har Sinaï et que les détails de ces commandements soient donnés un peu plus tard, au moment où les Bnei Israël allaient être confrontés justement à ces commandements. Or ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu absolument que la totalité de ces commandements et de leurs ramifications soient données de manière concomitante sur le Har Sinaï.
Pourquoi il aurait pu le dire tout le temps?
Alors c'est ce que je développais peut-être reprendre un petit peu ce message en insistant qu'au travers de la Shemitah, il y a un danger, peut-être un peu plus fort encore que dans d'autres commandements, que dans d'autres mitzvot, justement de tomber dans l'écueil que la Torah n'a pas souhaité, à savoir de vouloir séparer les grandes idées, on va dire, des commandements un peu plus, enfin des détails un peu plus pratiques de l'application. Donc je m'explique, voilà, si la grande idée qui se dégage de la Shemitah, c'est que la terre doit se reposer, parce qu'il est normal que comme les hommes, eh bien la terre puisse aussi se reposer pour être plus productive et retrouver ses forces. Alors comme je l'ai dit, eh bien cela pourrait tenter certains agriculteurs d'instaurer leur propre rythme de Shemitah. Or ce n'est pas ce que la Torah a voulu. La Torah a voulu que tout le monde puisse respecter la Shemitah en même temps, et donc on voit vraiment la nécessité. On pourrait appliquer cela également au Shabbat. Si le Shabbat n'est réduit qu'à une idée finalement du repos de l'homme, indispensable à son épanouissement personnel, on pourrait imaginer que chaque homme décide de se reposer un jour dans la semaine, le jour qui lui convient. Un tel pourrait se reposer le mercredi, l'autre pourrait s'arrêter de travailler le vendredi. Ce n'est pas ce que la Torah a voulu. Donc il fallait absolument ne pas scinder, je l'ai dit, la loi et l'esprit de la loi.
Alors on ne va pas faire le détail de toutes les lois à la suite. On prend le cas général, c'est tous les 7 ans, laisser donc la terre se reposer. Par contre, tous les commentateurs et les rabbins sont d'accord sur un point concernant la Shemitah. On parle d'un vrai acte d'Emouna, un vrai acte de... Comment on traduit Emouna ?
Un acte de confiance.
Voilà.
C'est un acte de confiance en Dieu absolu, dans le sens où il n'y a rien de rationnel dans la Shemitah. Jean, vous l'aurez compris, laisser la terre se reposer pendant un an, c'est a priori, si on s'en réfère aux lois purement naturelles, eh bien c'est prendre le risque de ne rien avoir à manger l'année suivante. Je n'ai pas ensemencé la terre, je n'aurai pas de récolte et donc je n'aurai pas de quoi me nourrir. Donc finalement, abandonner la terre en quelque sorte à Dieu, eh bien c'est lui manifester notre confiance, la confiance de cette bénédiction qui est promise à ceux justement qui vont respecter ces lois de la Shemitah et qui verront la sixième année donner une production tout à fait particulière, abondante, et qui sera suffisante pour la sixième, la septième et la huitième année. Donc par définition, accomplir la mitzvah de Shemitah est un acte de confiance absolue en Dieu, puisqu'il faut essayer de retirer ces lunettes qui sont, j'ai envie de dire, presque inhérentes à la totalité des êtres humains, ces lunettes qui nous poussent, qui nous conduisent de par notre, j'ai envie de dire, notre constitution, eh bien, qui nous poussent à voir le monde au travers de la nature, et d'être capable de se dire que derrière cette nature, eh bien, il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui dirige cette nature, il y a un Dieu qui est capable, en certaines circonstances, de modifier un petit peu ces règles de la nature, tout simplement pour donner la direction qu'il souhaite à ce monde. Et être capable de s'abandonner, être capable d'enlever ses lunettes pour mettre d'autres lunettes, bien, c'est ce qui est demandé à l'homme au travers de cette mitzvah de la Shemitah.
Alors, on va passer à la Shemitah, parce que sinon, on en a pour 3h30 au moins. On va évoquer le Yovel. Le Yovel, vous l'avez dit, le jubilé, c'est tous les 50 ans. Et Rachid, lui, parle de Haïl. Haïl, la référence avec le bélier, puisqu'on sonne le chauffard le jour du Yovel. On accepte les deux explications.
Alors, Rachid n'évoque pas directement la notion de Haïl. Rachid nous dit tout simplement que cette année, elle est Mouvdelet Misharchanim. Elle est donc totalement différente, totalement mise à part des autres années. Et preuve en est, on lui a donné un nom particulier. Ce nom de Yovel est un nom qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Torah. Et c'est ce que Rachid vient mettre ici en exergue. Et Rachid vient en revanche évoquer, et c'est en fait indirectement ce que vous vouliez dire, Jean. Rachid vient évoquer que Al-Shem Tkiat Shofar, que cette année, elle est appelée Yovel en référence au Tkiat Shofar, à la sonnerie du Shofar. Et donc, vous allez me dire, mais quel rapport avec la sonnerie du Shofar ? Oui, parce que justement, Yovel, la racine de Yovel, ça pourrait être Haïl. Et si Haïl est le bélier, eh bien, le bélier évoque justement cette corne de Shofar. Alors, pourquoi la corne de Shofar ? Tout simplement parce que, Jean, le Shofar, il évoque Matan Torah. Le Shofar, il évoque le moment du don de la Torah. Et donc, par définition, eh bien, le Yovel est censé un petit peu nous rappeler ce moment où nous avons reçu cette Torah, ce moment où nous étions Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur, et nous rappeler finalement à la fois notre état, l'engagement qui a été le nôtre à ce moment, l'unité qui était la nôtre à ce moment, Et le fait que, eh bien, c'est à ce moment-là que Kadosh Baruch Hu a distribué, entre guillemets, les cartes. Et ça, peut-être qu'avec le temps, on a un petit peu tendance à l'oublier. Le Yovel est là pour nous rappeler cette réalité. Monde revient un petit peu à son essence. C'est ça le principe du Yovel. C'est un monde qui revient, finalement, à l'essence de ce qu'il est. Et l'essence de ce qu'il est, eh bien, c'est au moment de Matan Torah, c'est au moment du dévoilement de la Torah que nous le vivons. Vivons cette réalité.
Je voudrais quand même qu'on revienne sur le Yovel pour que les gens sachent de quoi ils n'étaient pas. Tous les 49 ans, la Terre est redonnée à ses...
La 50e année, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans des cycles de 7, vous l'aurez remarqué Jean, la 7 est donc 6 années de travail de la Terre, la 7e année, qui est une année de Shemitah, où la Terre va se reposer, et puis, lorsqu'on est arrivé à 7 cycles de Shemitah, eh bien, la 50e année est une année de Yovel, une année de jubilé, avec des lois tout à fait particulières, notamment, on va dire, une redistribution des terres, voilà, une propriété à ce moment-là absolue qui est abolie, et cette volonté finalement de la Torah au travers de ces lois du Yovel, c'est voilà, de rappeler à l'homme qu'il ne possède rien. C'est important que l'homme sache, parce que c'est quelque chose, on l'a dit, qu'on peut oublier et qu'on a tendance à oublier avec les années. L'homme acquiert, l'homme va développer un certain pouvoir, une certaine puissance qui pourrait lui faire oublier qu'en réalité, eh bien, dans ce monde, voilà, il ne possède rien. Ce qu'il possède, il le possède grâce à Dieu. Mmh. Et il est nécessaire qu'à certains moments dans sa vie et dans l'histoire du Klal Israël, eh bien, cette notion lui soit rappelée, qu'elle lui soit rappelée de manière extrêmement puissante.
Si j'ai un terrain, au bout de 50 ans, je le redonne ou je le récupère?
Voilà, comment effectivement, ce terrain, finalement, retourne à son propriétaire original au bout de 50 ans.
D'accord. Si une personne ne respectait pas la Shmita, qu'est-ce qu'il risque?
Alors, la Gemara va longuement s'étendre sur les conséquences du non-respect de la Shmita, et qui sont en réalité directement liées à ce que vous soulignez, Jean, au début de cette émission, c'est-à-dire la problématique de la Emouna. La Shmita étant par définition un acte de confiance en Dieu, eh bien, si cette confiance est bafouée, si cette confiance est mise à mal, eh bien, nécessairement, elle sera, si la confiance que nous manifestons finalement à Dieu est impactée, eh bien, Mida Keneged Mida, j'ai envie de dire, en retour, la confiance que Dieu nous manifeste sera également impactée, également touchée. Donc, on va expliquer notamment que toutes les années d'exil sont liés directement à un non-respect de la Shemitah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous ne sommes pas capables de traiter la terre sur laquelle nous habitons comme il se doit, c'est-à-dire de lui donner un statut particulier, de faire comprendre que cette terre d'Israël se mérite et que ce n'est pas une terre comme les autres, eh bien, cette confiance brisée, voilà, fera que nous ne serons plus en mesure, en tout cas, de pouvoir l'habiter. Les trois derniers versets de notre Sidra, de manière assez intéressante, parce que j'ai dit que la totalité de notre première Sidra est consacrée aux lois de la Shemitah et aux lois du Yovel, les trois derniers versets, de manière assez surprenante, vont évoquer la problématique d'idolâtrie, qui est abordée d'ailleurs très régulièrement dans la Torah. Je crois qu'on doit y voir là, en réalité, le piège qui pourrait guetter justement ceux qui seraient tentés d'avoir une lecture un petit peu biaisée finalement de la Shemitah. Vous voyez, j'évoquais Jean au début de cette émission l'importance de ne pas séparer l'esprit de la loi de la loi. En voulant séparer parfois un petit peu l'esprit de la loi, eh bien on risque de tomber dans le piège qui est le piège justement de l'idolâtrie. C'est-à-dire que respecter, s'inscrire dans le respect d'une loi qui ne correspondrait pas à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, finalement, en donnant notre propre interprétation, risquerait de faire perdre à cette loi toute sa substance et de faire de nous, en réalité, en quelque sorte, des idolâtres.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on lit ces parachutes, on a du mal à trouver le rapport entre l'un et l'autre. Bon, entre, évidemment, la Shemitah et le Yovel, on comprend, mais par exemple, pourquoi en plein milieu, on parle d'idolâtrie, c'est quoi le rapport?
Alors, l'idolâtrie, je l'ai expliqué, vraiment, ce sont les trois derniers versets uniquement qui nous parlent de cette problématique d'idolâtrie, et vraiment, j'expliquais à quel point, bien sûr, il y a la compréhension, du texte, c'est-à-dire, l'idolâtrie, a priori, c'est l'idolâtrie, on sort complètement du sujet, on nous rappelle l'importance de ne pas servir des divinités étrangères, mais il y a d'autres formes d'idolâtrie, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. D'accord. Et je dis qu'à partir du moment où on s'éloigne, finalement, un petit peu de la loi, et de tous ces détails de la loi, eh bien, on est aussi dans une certaine forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que finalement, la Avodah Zara, c'est aussi parfois fois essayer de donner sa propre interprétation des lois d'Akadosh Baruch Hu et les détourner un petit peu de leur objectif premier. Et ça, c'est ce qui peut, en tout cas, guetter n'importe lequel d'entre nous, surtout dans ce genre de loi qui, dont le but et dont l'objectif est assez facilement compréhensible. Donc, vraiment, le danger, voilà, de ne pas se faire ses propres interprétations, mais d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des
choses. On a quelques questions et quelques minutes pour parler de Berukotai. D'abord, il y a, je dirais, une forme, on commence par des bénédictions et après des malédictions. Pourquoi pas le contraire ?
Il faut toujours commencer par le côté positif, c'est très très important. Et rappeler que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu va présenter les choses, voilà, il les présente quand même avec, on va dire, ce que l'on appelle couramment en hébreu, une cheskat kashrou, c'est-à-dire une présomption d'innocence pour le clan d'Israël. C'est très très important. Dieu n'est pas ici en train d'accabler le peuple d'Israël. Oui, parce qu'il lui rappelle que malheureusement l'homme est fragile et que l'homme peut rapidement glisser. D'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle il va s'étendre un peu plus longuement sur les malédictions, non pas qu'elles soient plus importantes que les bénédictions, mais tout simplement que l'homme, dans sa nature, étant un être fragile et qui a tendance à se laisser aller assez rapidement, il faut parfois peut-être un petit peu plus insister sur les pièges qui l'attendent que sur les récompenses. Un homme comprend plus rapidement quelles peuvent être les récompenses que malheureusement les désagréments qui peuvent l'attendre.
On peut mettre une pression. On peut mettre une pression en disant attention, ce qui va vous arriver si vous ne respectez pas mes commandements. Mais par contre, si, ça, c'est mieux.
Alors, la manière de présenter les choses, et je pense que c'est une leçon de vie, ici, ce que la Torah nous dit, c'est que lorsqu'on veut que le message passe, eh bien, il faut être capable de présenter les choses d'abord sous l'angle de l'optimisme, avec, en manifestant justement et en témoignant cette confiance, qui est une confiance réelle que Dieu a vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis du Ben Israël auquel il s'adresse, en disant, voilà, moi, je vous fais confiance, et donc, voilà, je sais que vous allez respecter mes commandements, je sais que justement, de par l'intelligence de vie qui est la vôtre, eh bien, vous aurez envie de bien faire. Et donc voilà, sachez à quoi vous vous exposez si justement vous choisissez cette voie qui est celle de la celle que la Torah vous invite à suivre. En revanche, voilà, si jamais eh bien vous vouliez essayer d'emprunter une autre voie, voilà, sachez qu'il pourrait y avoir certains désagréments. Mais il y a une invitation ici à toujours présenter les choses de manière positive. Je pense que c'est très très important, même pour nous, lorsque nous sommes amenés à présenter les choses vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis d'autres personnes, ou lorsqu'on voudrait même éventuellement faire une tochacha, voilà, un reproche, savoir le dire, savoir le présenter, savoir le faire, de manière à ce que nous soyons crédibles et que notre message puisse être porteur.
Donc, dans la paracha, il y a 7 versets de bénédiction. Il y en a une trentaine de malédictions. On ne va pas vous demander un commentaire parce que il faut les lire, je crois, avec les commentaires. C'est plus intéressant. Il y en a un que j'ai remarqué, celui du Rambam, qui explique la raison pour laquelle les bénédictions ne promettent que des bienfaits matériels. C'est vrai, dans les bénédictions, on parle que de choses matérielles. Qu'est-ce que dit Rambam?
Alors, on est interpellé, vous avez raison, Jean. On est interpellé par le fait que lorsqu'on nous parle au début de cette paracha de Berukotai des récompenses promises à ceux qui décident de suivre le chemin de la Torah, qu'on ne nous parle absolument pas de récompenses spirituelles. Donc, ce serait attendu à ce que, par rapport à une voie spirituelle, eh bien, la récompense soit aussi d'ordre spirituel. Alors, il y a deux courants de pensée. Effectivement, vous avez évoqué le Rambam Maïmonide, qui a une pensée un petit peu différente de celle de Nachmanide, comme souvent, du Ramban. Le Rambam, lui, dans ses Hilchot Tshuva, on n'a pas de commentaire du Rambam de Maïmonide sur la Torah, c'est dans ses Hilchot Tshuva, dans ses lois qui sont consacrées à la Tshuva, le Rambam explique en réalité que dans ces lois, finalement, de rétribution, qui sont en tout cas telles qu'elles vont se matérialiser dans ce monde-ci, eh bien ce monde-ci étant un monde matériel, eh bien les récompenses dans ce monde seront des récompenses d'ordre matériel. Les récompenses d'ordre spirituel sont des récompenses qui nous attendent dans le monde à venir. D'accord. Et ces récompenses matérielles ont, contrairement à ce qu'on peut imaginer, aussi un poids tout à fait positif dans notre manière de vivre notre spiritualité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est finalement épanoui dans ce monde matériel aura forcément plus de facilité à pouvoir trouver aussi un épanouissement sur le plan spirituel. Et c'est ça ce que le Rambam vient ici nous dire, que la récompense ne sera pas simplement une récompense spirituelle, mais qu'elle sera aussi une récompense matérielle, ayant pour but justement de faciliter l'accomplissement de cette vie spirituelle. Voilà, c'est important de le rappeler. La force justement du Ben Israël, eh bien, c'est d'être capable d'utiliser ces bénédictions matérielles qui lui sont données, eh bien, pour les exploiter justement spirituellement, mieux possible, voilà, de ne pas on va dire les vendanger en étant uniquement finalement dans le profit, mais de se dire que si on a la chance de bénéficier de tous ces bienfaits matériels, eh bien c'est pour être capable, voilà, de les utiliser à bon escient.
Alors il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, c'est Rashi qui explique que concernant les malédictions, la Torah évoque 7 fautes suivi de 7 punitions. De quoi parlera-t-il ?
Alors, il y a une progression, c'est très intéressant. Le chiffre 7, encore une fois, Jean, il n'est pas choisi au hasard. On parlait tout à l'heure du lien éventuel qu'il y a entre la paracha de Béar et la paracha de Bechoukotai. Ce lien n'est pas du tout évident. Et on retrouve le chiffre 7 ici qui est évoqué par Rashi. Ce chiffre 7, bien sûr, il évoque le chiffre de la Shemitah. Il évoque un cycle qui est un cycle naturel. Et ces 7 fautes, elles évoquent une progression. Et cette progression, elle est très importante. Le Rav Sourotskine, que j'affectionne particulièrement dans son Osnaïm la Torah, va développer longuement ce Rashi et cette idée justement de progression.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que dit Rashi ?
C'est le fait que un homme... en principe, lorsqu'il va s'inscrire dans une forme de déchéance, eh bien, ne tombe pas du jour au lendemain. Il y a une progression cette déchéance. Voilà. Et c'est finalement parce qu'il n'a pas été capable de réagir par rapport à une première chute, une deuxième chute, une troisième chute, qu'il peut se retrouver à un moment donné complètement prisonnier finalement de ses pulsions. Voilà. Les gens parfois peuvent s'étonner de voir une personne qui a priori a reçu une éducation tout à fait exceptionnel, qui a toujours baigné dans un milieu qui a priori lui a permis de se développer, qui lui a permis de s'épanouir, et puis de voir du jour au lendemain, voilà, cette personne se retrouver dans un état qui est bien loin en tout cas de celui que l'on était en mesure d'attendre de cette personne. Et ce que vient souligner ici Rashi, ce que met en exergue ici l'Osnaïm la Torah, c'est qu'en réalité, tout cela est toujours le fruit d'une déchéance progressive qui est parfois invisible pour le spectateur extérieur, mais qui en réalité existe. Voilà, qui en réalité existe. La personne est passée par une première étape, puis cette première étape l'a conduite à une deuxième étape, cette deuxième étape va la conduire à une troisième étape, et le chiffre 7 est très important. Il est évoqué notamment par le Tehilim, parce que David Ameler nous dit que le tzaddik tombe 7 fois et finit toujours par se relever. Oui, effectivement, c'est ça la force du tzaddik, c'est sans doute de se relever justement après chaque étape, de ne pas attendre d'être tombé la 7e fois pour se relever, c'est d'être capable de prendre conscience après chaque chute, et cette chute n'est pas grave en soi, à partir du moment où on est capable de mettre l'accent sur ce qui nous a amené à chuter, et justement de trouver les forces de se relever, de ne pas attendre que cette première chute en appelle une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et malheureusement une dernière qui, elle, pourrait être fatale.
Alors, vous l'avez dit, on arrive à la fin de ce Sefer de Vayikra. S'il fallait faire un résumé un peu global de ce Sefer, qu'est-ce que vous diriez ?
C'est très difficile de faire un résumé du Sefer Vayikra, c'est sans doute le Sefer le plus complexe de la Torah. En même temps, c'est le troisième, donc sur 5 Sfarim, il représente tout l'équilibre de la Torah. Il y a beaucoup de sujets qui sont un véritable équilibre dans la Torah. Je pense notamment à toute la cacheroute, qui a été évoquée très longuement dans la paracha de Shemini, donc au début du Sefer Vayikra. Difficile d'en faire un résumé, parce que, vous le savez, Jean, tout le début de ce Sefer Vayikra est... je dirais pas énigmatique, mais en tout cas très technique. Hein. On va parler de toute la législation des sacrifices, des corbanotes. Et puis, dans une deuxième partie du Sefer Vayikra, on va nous parler beaucoup des mitzvot. Il y a énormément de commandements qui ont été abordés dans le livre dans la paracha de Kedoshim ou dans la paracha d'Emor. Et donc, on voit finalement des sujets très, très différents et très variés qui sont abordés dans ce livre de Vayikra.
On a quand même l'impression que c'est le livre le plus compliqué, le plus complexe.
Alors, j'ai dit, le livre le plus complexe, parce que notamment cette première partie du livre de Vayikra est complexe, mais en même temps, c'est un livre qui est extrêmement centré sur l'homme. Et donc je pense que si on devait tirer finalement quelque chose de ce Sefer de Vayikra, c'est véritablement l'importance du travail sur les midot, du travail intérieur de l'homme, puisque notamment dans toute la législation des sacrifices, bien, il est question du travail des midot. Hein. C'est l'homme qui apporte un sacrifice et qui doit l'amener à une réflexion sur sa condition humaine. Et puis toutes les sidrotes suivantes, et même y compris les sidrotes, ça me permet d'évoquer aussi le sidrot de Tazria Metzora, avec cette maladie mystérieuse qui touche l'homme et qui l'amène à chaque fois à avoir une introspection, à réfléchir à sa condition
c'est
d'être humain.
C'est une remise en question de l'homme régulièrement dans ce Sefer.
Voilà, exactement. C'est vraiment une remise en question de l'homme. Parashat Kedoshim et mort sont beaucoup de lois qui régissent les rapports entre les hommes. Et donc, on met l'homme véritablement au centre de la création. Dès le début du Sefer Vayikra, même le premier Midrash qui nous parle de ce Sefer Vayikra va vraiment mettre l'homme au centre de la création et lui rappeler le rôle tout à fait particulier qu'il a. L'homme n'est pas une création comme les autres, il couronne la création, c'est pour cela qu'il a été créé en dernier, non pas pour se fondre dans la création, mais au contraire pour être capable de l'élever et pour être capable de la dominer.
Je voudrais juste remercier Lucas qui, à chaque fois qu'il réalise, nous laisse toujours une ou deux minutes de plus. Alors on le remercie, Lucas qui était aujourd'hui à la réalisation technique. Merci Monsieur Grandma. Rendez-vous la semaine prochaine, on arrive à grands pas vers le jour de la Torah, vers Shavuot. On en parlera probablement très bientôt. Merci, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.